Donc, c'est nouveau pour Philomania. Et c'est une bonne chose. Alors, je me présente, je suis Laurence Lacroix, j'animerai les Cafés Philo, le Café Philo de ce soir. Et je l'anime en partenariat donc, avec Nicolas Déré et avec Sylvain Teuil. Donc, voilà.
Et
Aude-Marie, qui n'est pas présente parmi nous ce soir, mais qui le sera bientôt. Est-ce que, Nicolas, tu veux dire un mot? Sylvain? Non, voilà. Donc, peut-être pour présenter les Cafés Philo, réintroduire la manière par laquelle nous fonctionnons. Donc, vous savez qu'aucun thème n'est défini d'avance. C'est vous qui allez faire des propositions. Toutes les propositions seront notées par notre secrétaire. Et à la fin de vos propositions, il y aura un vote. Et le sujet qui aura récolté le plus grand nombre de voix sera traité donc ce soir. Voilà. Il est d'usage de demander la parole. Tout le monde peut participer. Juste un point, c'est vrai que nous accordons toujours le micro à ceux qui n'ont pas encore pris la parole ou participé. Voilà. Donc les premières fois sont toujours privilégiées. J'ai à mes côtés Marie-France Canot, qui est donc la présidente de Philomania. Marie-France, y a-t-il quelque chose à rajouter?
Non, moi je suis prête à avancer le micro à ceux qui ont des sujets à proposer. La seule chose que j'ai à dire, c'est bienvenue à tous et je vous souhaite une très bonne séance.
Voilà. Alors, oui, c'est vrai, à la fin, il ne faut pas partir comme ça. Il y a le pot de la convivialité qui aura lieu à côté. Autre point aussi, Philomania, ce sont des cafés philo, mais ce sont aussi des conférences. Vous avez les flyers à l'entrée avec les conférences qui sont déjà programmées. Voilà.
Aussi, avant de passer au pont, on vous demandera d'avoir la gentillesse de nous aider à ranger les chaises, parce que le lycée nous accueille très généreusement, mais nous devons laisser les lieux en ordre. Et c'est vrai que pour les bénévoles qui ont mis les chaises, si vous pouvez leur donner un petit coup de main en les empilant pour qu'on puisse les ranger facilement, nous vous en serons très reconnaissants.
Et nous arrêtons en règle générale le Café Philo, nous le clôturons aux alentours de 20h30. Voilà. Donc c'est parti pour ce premier Café Philo de l'année. Donc si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Oui, monsieur?
Sommes-nous libres de nos choix et de nos décisions?
D'accord, sommes-nous libres de nos choix et de nos décisions?
Nietzsche disait, la vie est digne d'être vécue seulement si nous avons des buts à atteindre. Qu'en pensez-vous?
D'accord. Donc, citation de Nietzsche. La vie ne vaut d'être vécue que si nous avons...
La vie est digne d'être vécue seulement si nous avons des buts à atteindre.
La vie est digne d'être vécue seulement si nous avons des buts à atteindre. Voilà. Nietzsche, point d'interrogation.
Bonsoir. Donc j'ai une question, c'est par rapport à quelque chose qui me turlupine, c'est l'attitude du président du gouvernement espagnol son attitude par rapport au sport. Je me suis posé la question à quelle mesure on peut ou on doit enfin, avoir un sport apolitique, le rapport politique-sport. Vous avez peut-être suivi pour certains la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Et le président donc, a remercié les sportifs et il a montré son soutien aux manifestants. Il a dit qu'il était reconnaissant et admiratif du peuple espagnol qui avait manifesté tout au long de la Vuelta. Et la Vuelta, donc événement sportif, justement, a été perturbée et même l'arrivée finale a été écourtée. Donc le rapport qu'on a vu à travers l'histoire, le sport, la politique. Alors après, ma réflexion est partie vers l'Argentine, 78, le football, on peut parler de Berlin aussi. Enfin, C'est quelque chose qui, en ce moment, vu l'actualité en Espagne et l'attitude du président du gouvernement espagnol, hein, qui est là pour, évidemment, c'est le chef qui doit être garant de l'ordre, a pris cette position.
Voilà. Alors, on pourrait poser la question de façon générale, le sport doit-il être apolitique ?
Tout à fait, je vous remercie.
Oui.
Alors, ma question, est-ce que le progrès scientifique et technologique est-il une fin en soi ?
Donc, le progrès scientifique et technologique est-il une fin en soi ?
Est-il forcément une bonne chose ?
D'accord, ok. Donc, le progrès technique et scientifique est-il nécessairement une bonne chose ? C'est clair ?
Oui. La civilisation peut-elle être un rempart aux violences ?
D'accord. La civilisation peut être un rempart aux violences. Si on dit à la barbarie.
Civilisation barbarique.
Voilà.
La barbarie, là, mais.
Oui, violence barbare. Oui.
Que peut-on penser des évaluations auxquelles on est en permanence soumis, sollicité, processus d'évaluation dans la société ?
D'accord. Que penser des processus d'évaluation ? En cours dans la société.
Oui, moi, le pardon m'a toujours bien interpellé. Je pose la question, peut-on tout pardonner ?
D'accord. Peut-on tout pardonner ? Ok. Nous avons des propositions en fond de salle.
Bonsoir. Autrui est-il une contrainte ou une aide pour nous, pour chacun de nous ?
Autrui est-il une contrainte ou une aide pour chacun de nous ? Oui.
Bonsoir. Bonsoir. La vérité est-elle toujours bonne à dire ?
La vérité est-elle toujours bonne à dire ?
La conscience d'être libre rend-elle heureux ?
D'accord. La conscience d'être libre rend-elle heureux ?
Merci. Merci.
Nous avons
10 sujets.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les relise tous d'une seule traite, histoire que vous les ayez bien en tête. Et puis ensuite, on les reprendra un par un et vous pourrez voter. Je rappelle des règles très simples. Vous pouvez voter pour autant de fois que vous le désirez, pour le nombre de sujets que vous le désirez. Si jamais on a un sujet ex aequo, là, par contre, vous ne pourrez plus voter qu'une seule fois pour départager les sujets. Voilà. Mais au départ, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le désirez.
Donc, sujet numéro 1, sommes-nous libres de nos choix et de nos décisions ? 2, la vie est digne d'être vécue que si nous avons des buts à atteindre ? 3, le sport doit-il être apolitique ? 4, le progrès technologique et scientifique est-il nécessairement une bonne chose ? 6, que penser des processus d'évolution dans la société ? 7.
D'évaluation.
Pardon. Autant pour moi. Il y en a qui suivent, c'est bien.
C'est le test.
7. Peut-on tout pardonner ? 8. Autrui est-il une contrainte ou une aide pour chacun de nous ? 9. La vérité est-elle toujours bonne à dire ? Et 10. La conscience d'être libre rend-elle heureux ?
Voilà. Donc on va repartir sur le premier.
Donc le premier, sommes-nous libres de nos choix et de nos décisions ? Alors.
Mmh.
24.
Ensuite, donc c'est la référence à Nietzsche. La vie est digne d'être vécue que si nous n'avons des buts à atteindre.
La citation de Nietzsche. Je recommence. 3.
Le sport doit-il être apolitique? Est-il nécessairement une bonne chose? Peut-elle être un rempart à la barbarie?
Ou aux violences?
Oui. Des processus d'évaluation dans la société. Peut-on tout pardonner? Autrui est-il une contrainte ou une aide pour chacun de nous? La vérité est-elle toujours bonne à dire? D'être libre rend-elle heureux?
Donc en fait, on a deux ex-aequos.
Oui, on a deux ex-aequos. Que penser des processus d'évaluation dans la société? Et peut-on tout pardonner?
Ben, je vous propose de revoter pour le premier, sachant que là, vous ne pouvez voter qu'une fois. D'accord? Premier.
Que penser des processus d'évaluation dans la société?
Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas voté peuvent voter.
37. Et donc, peut-on tout pardonner ? Penser des processus d'évaluation dans la société.
Voilà. Alors, l'habitude est que la personne qui a proposé le sujet ouvre la discussion en s'en expliquant peut-être pourquoi un tel sujet.
Je suis allé chez mon coiffeur l'autre jour et le lendemain, j'ai reçu un message me disant d'évaluer mon coiffeur. Deux jours avant, j'étais allé chez mon médecin. J'ai reçu un message pour évaluer mon médecin. Cet après-midi, j'ai passé un long temps autour de la question des évaluations des associations. Quel est le processus d'évaluation des associations à l'égard des politiques publiques qui peuvent se décliner au niveau régional ou départemental ? On parle beaucoup des politiques publiques et de leur évaluation. Bon, mais que signifie l'évaluation ? Comment l'évaluation s'insère dans les processus de pouvoir ? Comment l'évaluation privilégie certaines approches politiques, économiques, sociales ? Voilà, quelle est la problématique ? Parce que la manière dont je peux la poser tout de suite.
Bonsoir. Pour lancer le débat, j'ai pensé à deux objectifs justement d'évaluation. Je pense qu'il y a un objectif, il pourrait y avoir un objectif pour l'évaluation des associations, notamment pour savoir si les fonds publics, souvent dans les associations, ou en tout cas qui sont à but non lucratif, sont bien utilisés. Et puis après, je pense à l'évaluation du médecin ou du garagiste, où là c'est vraiment une politique de satisfaction au client et plus à vocation commerciale et qui va potentiellement pénaliser les personnes qui travaillent dans tel ou tel lieu s'il n'y a pas une évaluation. Enfin, moi c'est ce que j'ai vécu. Hein. Si on ne met pas 8, c'est insuffisant, il faut mettre 9 ou 10, sinon j'ai déjà eu des rappels par un garagiste en me disant vous avez mis que 8, ou si vous mettez 8, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement satisfait, et nous on va être pénalisé. Donc voilà, c'était une approche particulière de l'évaluation qui peut avoir a priori des objectifs plus ou moins vertueux. Voilà.
Effectivement, dans le monde commercial et des entreprises, les évaluations, elles ont été beaucoup développées dans le monde anglo-saxon, qui est une approche de l'évaluation où mettre un 10 paraît normal à un service satisfaisant. Et ça fait un choc de culture en France où 10, c'est sur 20, c'est bien, et au-dessus, et puis la perfection ne l'atteint jamais. Et au niveau mondial, il y a des études qui montrent que les Français ont tendance à moins bien noter que les autres pays du monde. Et comme c'est beaucoup d'entreprises à un niveau global, international, les incentives, les primes, etc. sont débloquées à partir d'une note de 9. Et en dessous de 8, ça veut dire qu'il y a des gros problèmes à régler. Donc il y a toujours ces questions sur l'évaluation et sur l'incentive. Qui est dans un esprit anglo-saxon. Et moi j'ai pensé sur le thème de l'évaluation aussi aux évaluations des employés dans les entreprises, où on a le processus systématique d'évaluation annuelle qui permet de fixer des objectifs, des points d'amélioration, etc. et qui, en quelque sorte, fixe une attente au personnel pour atteindre ce cadre qui est fixé par la direction. Et comment ce processus d'évaluation permet un peu d'éloigner le sujet des demandes d'augmentation de salaire, parce que souvent on essaye de décorréler en disant c'est l'entretien d'évaluation, il s'agit juste de donner une tape dans le dos, etc. Ne pas avoir à discuter prime ou salaire en disant dans cette discussion-là, on n'aborde pas ces sujets-là.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Oui. Madame, qui dit évaluation dit normes et critères, et c'est un sujet finalement politique et citoyen au sens large, et le problème c'est que les acteurs eux-mêmes de les évaluer d'un système ne sont pas impliqués la plupart du temps. Donc, c'est une violence sociale. Après, l'évaluation, c'est intéressant quand ce sont des groupes ou des personnes ou des acteurs qui réfléchissent de manière aussi qualitative sur le sens de l'action. Et pour répondre sur les politiques publiques, ça porte vraiment ses fruits quand les acteurs réfléchissent aux critères. Qu'est-ce qu'on attendait, en fait ? Et bien souvent, c'est multicritère, donc c'est très complexe à mettre en œuvre.
Ce qui me semble déjà intéressant de percevoir, c'est qu'il y a une double dimension de l'évaluation, en fait. La première évaluation dont on a parlé, on peut la poser comme étant quantitative. C'est déjà donner une note. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est que dans notre capacité à noter, en fait, le peuple français est lui-même noté, il est lui-même évalué. Visiblement, nous, on n'a pas une bonne note, quoi. C'est ça que j'ai cru entendre. Donc, la question serait peut-être de savoir, justement, quels sont les critères d'évaluation du peuple français. Voilà. Et le second critère, il est très subjectif, en fait. C'est que là où le quantitatif pourrait paraître objectif, d'un autre côté, on nous demande aussi d'évaluer sur notre ressenti, notre satisfaction ou insatisfaction. Est-ce que le médecin a bien répondu à la demande qui était la mienne ou pas ? Et effectivement, là, il y a quelque chose qui pourrait nous faire rentrer dans une pression de l'évaluation auprès des professionnels. Exactement, oui. Donc, est-ce qu'il est juste de noter, voilà, d'évaluer ou pas ? Sur quels critères posons-nous nos notes ? Et il me semble que sur les associations, il y a encore un troisième critère, qui n'est pas l'évaluation, mais qui est peut-être l'auto-évaluation, ce qui ne serait pas la même chose. Une auto-évaluation personnelle ou une auto-évaluation de groupe ? Est-ce que c'est la même chose d'évaluer quelqu'un d'autre ou de s'auto-évaluer ? Est-ce qu'il y a un rapport de domination dans l'évaluation qui peut se mettre en place dans nos sociétés ? Ou est-ce qu'il y a aussi dans l'auto-évaluation quelque chose qui peut être de l'ordre d'un temps que l'on peut prendre pour effectuer un retour sur soi, pour voir où on en est, pour se poser, etc. etc. quoi. Dans quel objectif est faite l'évaluation, en fait ? Peut-être qu'il y a là une vraie question.
Bonjour. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la pression. La notion de justice est aussi peut-être amener celle de valeur qu'on peut accorder autant aux critères ou à l'évaluation qui est mise, autant à la valeur qu'on va donc donner à la personne qui est en face, peut-être dans nos relations interpersonnelles. Est-ce que c'est juger autrui que justement l'évaluer, parce qu'on est tout le temps en train de faire des constats sur ceux qui sont en train de en face de nous, et de savoir donc l'auto-évaluation qu'on apporte à nous, mais aussi celle qu'on fait aux autres vis-à-vis des autres, et est-ce que c'est un jugement de valeur qu'on peut être amené à faire ou...
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je crois aussi que une évaluation, ça devrait déboucher sur des côtés qualitatifs. À savoir que, bon, on fait le tour, mais on devrait voir aussi par rapport à la formation, au développement personnel. En même temps, ça devrait être inclus dans les évaluations. Et c'est le côté, qualitatif qui est oublié. Au profit du quantitatif, j'irais presque uniquement, malheureusement.
Alors moi, je posais la question de savoir si effectivement on était vraiment toujours objectif quand on donne notre opinion sur une évaluation, et cette objectivité, si elle n'est pas réelle, en fait, peut avoir des conséquences dramatiques.
Oui, je voulais rapporter deux expériences. Alors, on m'a demandé d'évaluer mes collaborateurs dans deux entreprises. Alors, je vais aller un petit peu à l'encontre des idées reçues. La première était une entreprise américaine. Je devais évaluer mes collaborateurs sur un certain nombre de critères, la créativité, la fiabilité, etc. Et selon le poste qu'ils occupaient, la fiabilité avait un gros coefficient, la créativité moins, ou le contraire. Et la note globale était donc le résultat d'un calcul. Si on mettait une très bonne note ou une très mauvaise, il fallait le justifier. Je ne dis pas que c'était totalement objectif, mais ça cadrait quand même un peu les choses. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces évaluations, elles étaient utilisées pour savoir de quelle formation les gens avaient besoin. J'ai pu renvoyer comme ça une collaboratrice pendant 2 ans à la fac, payée par la boîte, avec en contrepartie l'engagement de rester 5 ans dans la société. Puis je me suis trouvée dans une société française où on m'a demandé d'évaluer mes collaborateurs. Alors là, une note globale, pas d'analyse, aucune justification, et en plus on m'a dit « Ah ben de toute façon, vu les résultats de la société, tu dois mettre tant de pourcentage de mauvaises notes », ce qui signifiait, là, pas du tout des formations, mais éventuellement la porte. Et j'ai mis je suis en recherche, donc de toute façon, les résultats de mes collaborateurs, ils seront visibles dans 2 ans, c'est pas les résultats d'aujourd'hui. C'était vraiment un outil utilisé de façon très perverse. Donc je pense que ça peut, il y a d'abord, selon l'objectif et ensuite selon la façon dont c'est fait, ça peut être quelque chose de plutôt positif ou quelque chose d'atroce.
Il y a quelqu'un qui a prononcé le mot valeur. Je me demandais si étymologiquement évaluation, ça n'avait pas à voir avec la valeur. Et je voulais juste dire que ça nous met aussi en position de jugement permanent sur ce qu'a fait l'autre, ce qu'a dit l'autre. Hors du contexte entreprise, il y a quelqu'un qui nous téléphone pour une démarche d'assurance ou autre, à la fin, au moment de l'évaluer. Donc ça nous met en position de jugement, et je me dis qu'on est influencé socialement, sociétalement, par cette faculté qu'on nous demande absolument, parce que les gens au téléphone, ils nous disent « mais évaluez-moi, c'est important pour moi », où on serait en capacité, où on aurait les outils de recul, de jugement objectif le plus possible, pour toujours juger l'autre. C'est quand même une dérive au niveau des relations humaines qui me paraît un petit peu à interroger.
Alors oui, pour revenir sur la construction du mot « évaluation », dans évaluation, oui, il y a valeur. C'est-à-dire, quand j'évalue quelqu'un, je lui attribue une valeur, ou je lui donne une valeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de valeur, lui, il est très polysémique. Mais dans ce qui nous intéresse, il me semble, la valeur, c'est d'abord la valeur d'un produit, c'est-à-dire d'un prix. Et quand on met 8 sur 10 à quelqu'un, 9 sur 10 ou 10 sur 10 à quelqu'un, sur le net ou autre,
à mon médecin
ou autre. En d'autres termes, quel est le prix que je lui accorde? Enfin, voilà. C'est ce qui va lui permettre de perdurer. Enfin, on rentre du coup dans une logique quand même de marchandisation des biens et des services. Oui, des personnes. Derrière ça, ce sont des personnes, tout à fait. Merci.
Sur une question qui est connexe à celle des valeurs, je m'interroge aussi sur la notion de la légitimité des évaluations que soit qu'on nous demande de faire, soit que l'on fait à notre sujet. Parce qu'on a dit qu'effectivement, aujourd'hui, on nous demande d'évaluer les services auxquels on a recours, on nous demande d'évaluer des collaborateurs, des collègues, on nous demande d'évaluer un produit qu'on a acheté. On peut aussi parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand un post que l'on fait sur les réseaux sociaux suscite plus ou moins d'attention. Il y a aussi une dimension d'évaluation du succès ou de la visibilité de ce post. Et en fait, pour moi, cette question d'être un peu évalué en permanence par tout ce qui m'entoure pose la question de se dire, mais qui est légitime pour émettre cette évaluation? Si quelqu'un demain vient à mon bureau pour juger mon travail, je vais regarder d'une certaine façon, mais pourquoi est-ce que vous... Enfin, quelle est votre légitimité pour juger de mon travail alors que vous n'êtes pas dans le même domaine, vous n'avez pas forcément les connaissances qu'il faut. Et donc, il y a aussi, je pense, une réflexion à mener au niveau, à notre niveau individuel, de se dire, il y a des évaluations que l'on émet, que l'on reçoit, mais il faut qu'on ait un regard critique sur ce que nous sommes en mesure de faire comme évaluation. Est-ce que c'est vraiment pertinent que j'apporte cette évaluation? Et à l'inverse, ce que je reçois comme évaluation, est-ce que je dois le prendre en compte ou pas? Parce qu'en soi, l'évaluation, même dans le règne animal, il y a une dimension d'évaluation. Par exemple, les paranuptiales, un partenaire va juger de la fertilité ou de l'intérêt de s'unir à un autre partenaire. Donc il y a une évaluation, ce mâle-là, il sera plus intéressant qu'un autre. Donc en fait, il y a quelque chose qui est inscrit en nous d'évaluer en permanence. Mais il faut que nous, on ait un regard critique sur ce que l'on évalue, sur ce que nous, on accepte de voir évaluer en nous, pour bah, simplement ne pas saturer en fait et ne pas passer notre temps à vivre au travers de ces évaluations.
Bonjour. Moi, je voulais plutôt parler du côté de ceux qui sont évalués plutôt que ceux qui évaluent. Parce que moi, du coup, je suis au lycée et on est constamment évalué par rapport à des productions de copies qu'on rend ou par rapport aux connaissances qu'on a su utiliser ou non. Et nous, on est évalué par des personnes qui ont les connaissances et les compétences pour nous évaluer normalement. Mais on peut... normalement, mais on peut... On peut remettre le système en question en se demandant si l'évaluation est vraiment nécessaire. Nous, il y a quand même un but de progresser. Il y a quand même une idée de progrès dans l'évaluation. Est-ce que si on évalue sans progrès, il n'y a pas vraiment de raison d'évaluer? Et puis, on est aussi évalué en termes de comportement, par exemple dans les bulletins par les professeurs. Donc, il y a quand même cette idée d'évaluer le comportement des autres. Pas forcément dans le scolaire, mais toujours, si on va devenir ami avec des personnes, c'est parce qu'on va évaluer leur comportement comme plutôt similaire au nôtre ou qu'on apprécie. Donc il y a toujours des évaluations dans la société.
Alors c'est vrai que ce problème de l'évaluation, c'est-à-dire de la notation très clairement dans le système scolaire, il est posé et il est récurrent. Ce qu'on peut quand même dire déjà, je crois, c'est que cette logique de l'évaluation, du coup, on l'a tous vécue, parce qu'on est tous passés par le scolaire. Et c'est vrai que ça a pu générer chez certains une très grande violence. Donc, interroger le système de notation du système scolaire, et ce que j'entends derrière votre propos, c'est aussi le fait que la notation ou l'évaluation scolaire, elle est vraiment dans une logique de normativation. On veut normer les individus, que ce soit en termes de connaissances ou en termes de comportement. Donc là aussi, il y a peut-être des choses qui sont interrogées. Oui.
Alors là, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire mademoiselle, je sais pas. Et j'ajouterais en plus que ce système d'évaluation met les gens en compétition. Et la compétition, c'est contre-productif. Parce que on sait très bien que quand on est plusieurs autour d'une table à travailler sur un sujet, on arrivera à quelque chose de plus fort et plus grand que si on est tout seul, chacun de notre côté. Et la compétition, on la vit depuis qu'on est enfant. On nous compare à nos frères, à nos sœurs, à nos cousins, à nos cousines, à notre ami. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de auto-jugement. C'est ça qu'il faut apprendre, je pense, à s'auto-critiquer, s'auto-juger. Mais cette compétition, c'est terrible.
Bonsoir. Moi, l'évaluation de prime abord, ça peut me mettre un peu mal à l'aise, mais j'ai l'impression que, en fait, dans la vie, quel que soit ce qui se passe, une action qu'on puisse faire, une production, on est obligé d'évaluer si ça fonctionne ou pas. Quoi qu'on fasse, je sais pas, on essaye de jeter une boulette de papier dans une poubelle, ça tombe ou pas dans la poubelle. Et je pense que voilà, c'est aussi dans notre rapport au monde. Après, quand on parle de système de notation, choses comme ça, on est dans un système cadré où il y a des personnes qui vont en évaluer d'autres. Donc, il y a peut-être aussi une forme de hiérarchie ou potentiellement un système de domination quand on parle de professeurs et d'élèves, mais aussi de patients avec des soignants, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une différence aussi entre une évaluation quantitative et qualitative, en effet, même si le quantitatif, c'est quand même assez pratique parce que ça permet d'aller très très rapidement pour dire bah, « tiens, là ça a fonctionné, là ça n'a pas fonctionné », plutôt que d'avoir à lire un très long texte. Après, je voulais donner un exemple par rapport à quelque chose que j'ai pu voir, l'art-thérapie, où on peut parler d'évaluation. Enfin, j'ai eu un cours d'évaluation sur l'art-thérapie où j'étais assez sceptique là-dessus en disant, une production d'un patient, un dessin par exemple, comment on pourrait imaginer l'évaluer ? Sauf qu'en fait, c'est très très intéressant et très important de pouvoir avoir une évaluation. Et pour le coup, ce ne sera pas une évaluation qui sera esthétique ou artistique, mais plutôt de dire, là, ce patient, il met du rouge, alors qu'avant, il mettait du bleu. Ou là, il va faire des lignes qui vont être très nerveuses, alors qu'avant, c'était des lignes courbes. Et le fait d'avoir cette évaluation, ça va permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe un petit peu pour cette personne au cours du temps. Et ce n'est pas dans une forme de jugement en disant, même là, il va mieux ou pas mieux, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais ça permet en fait de comprendre si on ne prend pas des notes, si on ne décrit pas ce qu'il fait, si on n'a pas de critères pour dire, ces lignes, elles sont de telle manière, là, il va utiliser des formes géométriques, là, plutôt figuratives, et on a besoin quand même de mettre un jugement, mais il n'est pas forcément avec un objectif, soit de mettre une note et donc de hiérarchiser des personnes ou de dire que c'est bien ou pas bien, mais c'est beaucoup plus subtil. Donc il faut voir aussi les objectifs qu'on met derrière l'évaluation. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Après, comment c'est utilisé? Dans quel système c'est intégré? Est-ce que c'est quantitatif ou qualitatif? Est-ce que l'évaluation, elle est adaptée à ce qu'elle évalue? Parce que par exemple, si jamais on va mettre des graines dans un champ et qu'il y a tant de... tant de kilos de blé qui poussent, ça a plutôt fonctionné, alors que évaluer quelqu'un qui va même faire une dissertation, c'est plus compliqué, on ne peut pas lui dire il a fait 3 pages, c'est très bien, lui il en a fait qu'une, donc c'est pas bon. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de critères autour de l'évaluation et que justement en fonction de ça, ça change pas mal de choses.
Ouais, c'est ça. Alors je reviendrai sur ce que je disais sur la polysémie du mot valeur qu'on trouve dans évaluer, parce que je me dis il faut peut-être pas mettre ou utiliser le verbe évaluer pour tout. Quand je suis attentif à ce qui peut se passer dans un dessin d'art-thérapie, lorsque je suis dans une observation, dans une description, dans une prise en considération, est-ce que je suis dans l'évaluation? C'est pas certain du tout. C'est-à-dire effectivement, je suis peut-être dans le jugement au sens premier du terme, c'est-à-dire dans le fait d'apporter une capacité à décrire par le langage ce qu'il en est d'une évolution. Mais ça, ce n'est pas pour moi une évaluation. Dans la logique de l'évaluation, il y a effectivement la valeur. La valeur, quand on parle de qualité, par exemple, il me semble qu'elle relève de ce qu'on pourrait nommer la moralité. Quand je peux évaluer, c'est-à-dire voir si une personne est une bonne personne, c'est-à-dire juger à son comportement ce qu'il en est de l'ordre de la valeur morale. Je peux évaluer une œuvre artistique au sens où je vais lui accorder la valeur du beau. Et encore une fois, je peux évaluer à l'inverse, au niveau quantitatif, le fait de dire telle personne vaut tant. Voilà. Et il me semble que la difficulté qu'on a dans le scolaire, c'est que la note, elle est un peu reçue sur cet ordre-là. C'est-à-dire quelle est la valeur que vaut la personne? Est-ce qu'elle rentre dans la norme sociale? Est-ce qu'elle peut s'intégrer dans la société? Quelle poursuite d'études elle peut envisager? Si j'ai pas un 16, telle école ne me prendra pas. Je deviens le 16 de ma copie. Et c'est là où c'est vrai que ça peut changer un peu la donne. Alors que dans le fait d'être attentif à l'autre, dans le fait de savoir si je peux être ami ou non avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être l'évaluation morale. C'est-à-dire, est-ce que la personne est sympathique ou pas? Mais là, je n'ai pas de note. Enfin, je ne suis pas dans du quantitatif. Je suis dans de l'affectif. Donc, c'est vrai que l'évaluation, c'est problématique. Parce que ça peut nous emmener sur des terrains qui sont en fait très différents les uns des autres. Et qui n'ont peut-être pas, je vais utiliser le terme, la même valeur. Hein ? Le terrain de la compétition n'a pas la même valeur que justement la dimension, par exemple, de l'amitié. Hein ? Voilà. Le fait de juger que quelqu'un, je juge, c'est-à-dire je décide selon mes valeurs, que quelqu'un peut devenir mon ami. Je ne l'évalue pas au sens de quelque chose qui pourrait être pesé.
À partir du moment où on vit en société, il faut forcément au minimum se coordonner, coopérer, interagir avec d'autres personnes, et ça suppose en un sens de faire un peu pression sur eux. C'est vrai que si on était complètement séparés les uns des autres, des espèces d'atomes dispersés, bon, il n'y aurait pas de vie commune. Donc en un sens, il faut bien un moyen de pression. Pression, c'est péjoratif, mais en tout cas, un moyen d'influencer les autres. Et je pense que l'évaluation joue ce rôle de pression. Je pense que c'est une fonction, on pourrait dire, de motivation. C'est pas pour défendre le système scolaire tel qu'il est, mais disons, l'intérêt des notes, c'est aussi de motiver. Quand on sait qu'on va être noté, on travaille plus et mieux que si on nous dit d'avance que ça n'a aucune importance. Donc même si, évidemment, on peut le regretter un peu, c'est quand même aussi un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc cette fonction de motivation, elle est réelle, elle est importante. Je pense quand même que les élèves, quand ils demandent « ça va être noté », c'est une façon de dire « est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que j'y vais à moitié ?» quoi. C'est pas pareil. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est la fonction, peut-être celle dont on a parlé, c'est l'évaluation au sens de mesurer, juger, est-ce que ça vaut plus, est-ce que ça vaut moins, est-ce que c'est un peu mieux, est-ce que c'est moins bien. C'est un peu la deuxième fonction des notes, quoi. C'est-à-dire de se classer par rapport à un travail idéal, quelque chose comme ça, avec un barème. Et je trouve qu'en fait, des systèmes sociaux où on a à la fois cette fonction d'information sur le niveau et de motivation sur ça nous pousse à travailler, avoir ces deux fonctions à la fois, c'est vraiment bien. Je pense que l'évaluation, c'est aussi une bonne chose parce qu'il y a peu de fonctions, il y a peu de dispositifs qui sont équivalents. Ça motive et ça évalue au sens de sa classe. En fait, il y a les prix qui marchent aussi. Un prix, ça sert aussi à ça. Mais en fait, finalement, l'évaluation, c'est justement quand il n'y a pas de prix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent à l'école. C'est aussi pour ça qu'on évalue. Sur Blablacar, il y a tous les voyages, ils sont au même prix, en gros. Donc à partir de là, c'est un peu la note qui va servir à... Enfin, l'évaluation qui va servir à classer. Le médecin, pareil, les médecins étant tous à peu près au même prix, on a besoin d'évaluer au sens, justement, de mettre ses notes. En fait, en vérité, la plupart du temps, il y a une évaluation, justement, quand on ne peut pas distinguer par le prix. Alors que quand on peut distinguer par le prix, on n'évalue pas, quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, les concerts, les artistes super renommés, ils font des places de concert hyper chères, les artistes moins renommés font des places de concert moins chères. Mais c'est vrai que pour beaucoup de domaines de la vie, on ne peut pas appliquer comme ça un prix aussi strict. Du coup, je trouve que c'est un peu une sorte de comment dire, de compétiteur presque du prix, l'évaluation.
Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Cela me fait apparaître le côté totalement subjectif et personnel de toute évaluation, avec tout ce qui en découle d'ailleurs. Et personnellement, je n'évalue pas. Alors, je suis moi-même évalué, puisqu'étant présent sur une plateforme de location que tout le monde connaît, j'ai pu observer qu'il y avait quand même beaucoup de bienveillance. Si on est soi-même bienveillant envers les gens, quelle que soit l'attitude, quel que soit le résultat qu'on a pu avoir auprès d'eux. Je voulais juste dire que je n'évalue pas. Et ça me conforte dans mon choix, dans mon positionnement. Voilà, merci.
Je voulais rebondir sur l'évaluation des enfants. Moi, je pense qu'on pourrait passer à un système d'auto-évaluation. On a déjà fait un premier pas sur les notations des élèves en passant à ce système de couleurs pour les petites classes. Bon, les parents demandent toujours, mais un vert, c'est égal combien ? On a coupé en quatre les notations, mais déjà, il y a un progrès. Mais je pense qu'on pourrait basculer complètement sur plus de notes. Les élèves s'auto-évaluent, se corrigent eux-mêmes et ils jugent de la valeur de leur travail et des progrès qui sont encore à faire. Et puis forcément, il y aurait moins de motivation sur certaines matières, etc. Mais voilà, pourquoi pas. Le deuxième point, je crois qu'on n'a pas trop abordé la notion de double évaluation. En fait, maintenant, sur certaines plateformes, non seulement on évalue, mais on est évalué en retour. Donc c'est assez hypocrite, je trouve, puisqu'on fait assez attention à ce qu'on va dire, puisque en retour on va être soi-même évalué. Et en même temps, ça permet de nous mettre dans une posture à peu près empathique. On se dit, bah, puisque moi je vais être évalué, je fais attention à ce que moi je vais dire sur l'autre, comment je vais évaluer l'autre. Mais on en vient voilà, à être noté soi-même dans plein de bulles de nos vies. C'est un peu comme les données personnelles, hein, elles vont se recouper petit à petit, et donc on va finir par avoir une grosse note qui va faire la moyenne de tout ça. Je donne un autre exemple, si vous êtes ou pas sur des sites de rencontres, sachez qu'on a une note en fait cachée. Les applis en fait calculent ces notes et vont plus ou moins montrer votre profil à d'autres, etc. en fonction de votre note. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui vous attribuent cette note, c'est aussi le système, la machine, voilà. Et dernière petite parenthèse qui me fait rire jaune, on parlait de valeurs, mon entreprise a sorti du chapeau des valeurs il y a un an. Maintenant, on a des grandes valeurs affichées dans l'entreprise, bon, c'est le même que les autres. Mais... Et donc, chaque année, maintenant, on va être évalué sur le respect de ces valeurs. Donc, à quel point nous, on correspond à ces valeurs.
Plutôt que de se focaliser ad vitam aeternam sur les évaluations, on ferait mieux de faire de même sur la critique. Parce que la critique, c'est ça qui permet justement de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Parce que la critique, ne pas confondre la critique et le jugement, ce sont deux choses différentes. Normalement, une critique, c'est une dissection qui permet de comprendre, de savoir qu'est-ce qui marche, comment ça marche et surtout pourquoi ça marche. Donc plutôt que de se focaliser ad vitam aeternam sur les évaluations qui, en tant que telles, ne veulent pas dire grand-chose, concrètement ce sont juste des chiffres à la con, on ferait mieux donc de favoriser la critique constructive, j'entends, celle qui permet réellement d'émettre un jugement positif, qui permet de faire le tri entre les points forts et les points faibles, et surtout qui permet à autrui de s'améliorer. C'est le but d'une critique. Trouver le meilleur moyen de s'améliorer. Trouver comment je peux faire pour m'améliorer. Merci.
Je voudrais parler des... On parle d'évaluation. Et la question qui me paraît importante, c'est de savoir quel est le but qu'il y a derrière une évaluation. Si je prends le cas de l'école, et je ferai un parallèle avec le judo, on cherche à tester une acquisition de connaissances. Alors, pour passer Ceinture-Marron en judo, il faut avoir un certain niveau, il faut connaître les règles, il faut respecter, et on ne l'est pas tant qu'on n'a pas atteint cette capacité. Et j'ai jamais vu beaucoup de judokas contester cette progression, cette acquisition de connaissances. Quand on est à l'école, c'est un peu pareil. Quand on est dans l'entreprise, j'ai vu les deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui veulent progresser en faisant progresser leurs employés. Le principe étant, c'est beaucoup dans les entreprises américaines, plus ils sont formés, plus ils travailleront bien, plus on gagnera d'argent. Donc pour faire bien les former, on leur fait des évaluations qui sont assez bien faites. C'est long, c'est dur à faire quand on est évalué ou quand on est évaluateur. Et ça peut avoir un but. Il y a aussi des évaluations qui sont faites pour simplement licencier du personnel. C'est pas du tout les mêmes et ça devient des critères. Et je pense que dans notre société ici en France, on est un peu perverti sur les évaluations, où elles servent un peu à tout, à n'importe quoi, et sans qu'on en sache le but véritable, je pense. Et c'est ça le plus important. À quoi ça sert d'être évalué? Si on le sait, on peut s'y préparer, j'allais dire jouer le jeu, et acquérir des compétences, par exemple, ou bien en transmettre, ou en former, et ça reste une chose assez... Ça peut être relativement équitable si c'est partagé et que chacun des interlocuteurs connaît les critères et le but de l'opération. Et ça, quel est le but de l'évaluation? Alors, les notations d'agents qui doivent être notés 9 ou 10, c'est un peu du pipeau, et ça permet effectivement de contrôler les rémunérations, mais ce n'est pas l'évaluation, ça c'est une politique d'entreprise.
Merci. Je voulais juste parler de quelque chose qui m'avait choqué à l'époque aux États-Unis, quand il y a eu l'attaque des tours de New York. Les assurances devaient payer la famille du mort que la famille avait perdu. Et il y avait des évaluations. Et donc, suivant que la personne était jeune, avec un grand avenir, moyen, enfin actif, avec plus ou moins de diplômes, ou alors âgé, le paiement correspondait à ces évaluations. J'ai trouvé ça horrible, étant donné qu'on ne peut pas estimer, je trouve qu'on ne peut pas estimer la valeur d'une personne.
Je voulais revenir sur l'évaluation, enfin les évaluations qu'on fait par exemple sur les avis Google ou les choses comme ça, puisqu'on en parlait. Je trouve que c'est assez intéressant comme phénomène par rapport à la société actuelle. C'est que, bon, en ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé de regarder les évaluations pour un médecin, un dentiste ou quoi, et ça peut être quand même assez utile en fonction du nombre d'étoiles de dire tiens, lui il a que 2,5, c'est peut-être pas un bon plan. J'ai ensuite regardé les commentaires et de voir, bon, il n'a pas l'air d'être très, très, d'être bon, un très bon praticien, on va dire. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de mettre des commentaires négatifs quand c'était vraiment trop problématique. Et je pense que dans des sociétés ou des groupes sociaux beaucoup plus petits, le fonctionnement de la confiance se fait sur un critère totalement différent. C'est plus, on connaît quelqu'un qui va nous recommander. Mais aujourd'hui, on est tellement nombreux, ou peut-être dans des grandes villes, où en fait, ça devient très très difficile d'avoir justement ce genre de recommandations. Donc, pour pouvoir savoir à qui on a affaire, on passe par ces biais-là, qui sont, je pense, renforcés par la technologie, et qu'en plus, on nous pousse à évaluer toujours plus. Et donc, c'est un peu devenu ancré, en fait. Mais est-ce que c'est pas un biais? On a besoin d'évaluation, mais elle a complètement changé de nature aujourd'hui, parce que peut-être les gens sont moins liés les uns aux autres, qui sont peut-être tout seuls, peut-être que voilà, il y a plus de monde, alors que avant c'était les personnes, notre entourage qui nous permettait justement d'évaluer ou de trouver la confiance.
Mais ce qui est intéressant dans vos propos, c'est qu'on parle peut-être pas de la même évaluation. Parce que quand c'est ma meilleure amie qui me dit « va voir tel toubib », parce que c'est quelqu'un de bien, donc déjà on est dans cette dimension-là. Et puis moi je la connais, ma meilleure amie, elle me connaît aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une, tu vois, d'un affect personnel qui passe. Quand je vais sur Internet, moi je ne sais pas qui a noté le toubib. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on y va pour savoir si le toubib il est bon. Mais je me dis quand même, il y a eu une évaluation première qui a été faite, qu'on occulte complètement. C'est, moi, c'est l'université de médecine. C'est clair de rien s'il est toubib. C'est qu'il a quand même dû l'avoir, son diplôme. Et donc, à qui fais-je confiance? Est-ce que je fais confiance à un jury de médecins qui a validé des années d'études et de pratiques? Ou est-ce que je fais confiance à je ne sais pas qui me met que non, tel, il n'est pas bon. Là, pour le coup, on revient sur le problème de la légitimité de l'évaluation. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi moi, j'y vais. Déjà, un, parce qu'il n'y a plus de toubib. Donc je me dis, un, il n'y a plus de toubib, et pourtant, on va aller voir des évaluations pour savoir qui je voudrais quand même. J'aimerais aller voir. Ce n'est pas gagné. Deux, je me dis, mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas quand même un désir total de tout contrôler, en fait? Parce que oui, je ne sais pas qui je vais aller voir quand je ne connais pas les gens, mais ça fait aussi partie du risque. Moi, je ne connais pas mes élèves quand ils arrivent en début d'année. Je n'ai pas été voir si vous étiez noté sur Facebook. Voilà. Est-ce que mes élèves, ils sont bien ou mauvais? J'en sais rien. Très certainement, peut-être que moi, je suis notée. Hein. Voilà. Mais j'ai envie de dire, ça fait aussi partie du jeu social de faire des rencontres, de juger par soi-même, de voir si ça convient, si ça ne convient pas. Et puis de faire confiance aussi à une certaine structure du système qui fait que si les gens sont à la place qu'ils occupent, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pas à partir de rien. Voilà, sur les avis Google.
Moi, je pense qu'il y a une grave dérive, c'est de juger les personnes de manière essentialiste, quoi. Les êtres sont ce qu'ils sont. Voilà, chacun a son mystère et son histoire. Et de faire glisser ça dans les processus d'évaluation. Être bon communicant, être dynamique, être sympathique. Mais qui est-on pour juger de l'être des autres? Et la grande difficulté, c'est d'objectiver. Qu'est-ce que c'est qu'être sympathique dans le travail? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que ça oblige à réfléchir à de réelles attendues dans le travail qui, là, peuvent être discutées. Oui. Si on vous dit, oh, mais toi, de toute façon, t'es pas sympathique, tu n'écoutes pas, tu sais pas communiquer, t'es toujours dans ton coin, allez, mauvaise note. Qu'est-ce que l'autre peut en faire si ce n'est le prendre pour lui-même? Et c'est très destructeur. Et là, il y a vraiment une très grave dérive dans le travail. Et ça fait partie aussi d'une certaine maltraitance au travail.
La souffrance au travail.
La souffrance au travail. Ouais, ouais.
Bonsoir. Alors, il y a un mot que je n'ai pas entendu dire. Alors, je me permets, je vais essayer juste pour rester en lien avec le sujet de monsieur et, à qui on a demandé d'évaluer la prestation de son coiffeur. Il y a le mot estime, en fait. Comment est-ce qu'il estimerait? Et je trouve que ce mot, le mot estimer, il induit une notion, j'allais dire, d'erreur, une marge d'erreur, peut-être d'humilité de la part de celui qui valide ou non la prestation, et elle fait rentrer aussi une dimension émotionnelle, relationnelle que monsieur a pu avoir avec son coiffeur. Et alors, ce mot estimé, parce que je sais pas, moi, il me fait penser, tout à l'heure il y avait quelqu'un qui parlait des animaux là, l'animal va essayer d'estimer la distance à laquelle, enfin le jaguar, la distance à laquelle situe le gnou avant qu'il puisse lui sauter. Et une fois qu'il aura réussi ou non, il n'y aura pas de suite, il faudra qu'il retrouve un autre gnou sur lequel sauter. Et donc ce qui va, en fait, c'est ce qui va valider, j'allais dire, l'estime qu'il a eu de cette distance, ou alors l'évaluation qu'il en a faite, c'est l'obtention du résultat. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que même une fois qu'on a encore réussi à valider les 8, 9, 10, les résultats, on va encore être appelé à être validé sur d'autres critères. Je pense aux élèves qu'on a tous été.
on estimait qu'on avait fourni des bons efforts, qu'on avait répondu au sujet, qu'on méritait une bonne note, et pourtant le professeur en a décidé autrement, parce que notre rapport aux autres, aux critères posés par le professeur et par toute la communauté, par ensemble, j'allais dire, de ses pairs, faisait que nous n'étions pas encore dignes d'intégrer le niveau demandé. Alors c'est pour ça d'estime dans la mesure où il y a une notion d'humilité dans l'estime. On va parler d'estime de soi, d'estime de l'autre, une notion d'humilité et puis une marge d'erreur aussi. Une marge d'erreur qui ne rentre pas dans l'évaluation. On est tout de suite dans la performance. Un synonyme, excusez-moi.
Moi, je voulais juste aborder un autre aspect, c'est l'aspect d'être évalué. Pour ma part, j'ai tenu un restaurant pendant une dizaine d'années, et je peux vous dire que les évaluations Google, TripAdvisor et autres sont des choses très, très violentes. Il vous suffit qu'un soir, votre serveuse, elle oublie d'amener le pain ou elle traîne un petit peu, le lendemain, vous pouvez vous ramasser un 1 sur 10. Je me suis même fait traiter de raciste, des choses comme ça. Donc, quand il n'y a pas de système d'évaluation vraiment de critères. Côté personne évaluée, je peux témoigner que c'est violent. Et la preuve, on voit aussi, ce n'est pas mon cas, moi, des grands restaurateurs qui refusent les étoiles Michelin parce que c'est une évaluation permanente, une évaluation absolument insoutenable. Il y en a même qui s'est suicidé. Donc je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui provoque un stress assez fort. Moi, je connais pas mal de restaurateurs, c'est vraiment difficile. Le matin, quand on démarre, on voit que le monde entier, c'est prétentieux, mais beaucoup de gens sur Internet peuvent nominalement vous critiquer. Parce que mon nom a été cité aussi. J'estimais quand même faire les choses correctement. Voilà, je voulais parler de ce côté stressant de l'évaluer. Artificiellement, parce que...
Mais moi, je pense que le problème, c'est qu'on évalue tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a 40 ans, peut-être moins, je donne deux exemples. Par exemple, si ici, à la sortie, vous nous donnez une petite feuille pour savoir si on a bien compris tout ce qui a été dit, ça n'aurait aucun sens. Alors que si on voulait tous faire des études d'astrophysique, ce serait vraiment très important qu'on passe un contrôle pour savoir si on est bon en maths. Et on est obligé d'évaluer, parce qu'on ne peut pas tous aller faire de l'astrophysique. Il faut aussi des tas de métiers dans la vie. On ne peut pas tous faire le même métier dans le monde. Donc, je pense que les évaluations dont on parle, certaines, par exemple sur Google, je ne pense pas que ça ait vraiment un sens. Vous l'avez dit très clairement, le diplôme de médecine est nettement plus important que 40 000 avis de rigolos qui croient que la Terre est plate ou des trucs comme ça, vous voyez.
Merci. Je relis le développement de ces statistiques, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des évaluations, avec la baisse de la communication entre les êtres. Je ne sais pas par quel bout le prendre, en fait. Je ne sais pas si c'est le développement de ces outils-là qui vient amoindrir la communication entre les êtres ou l'inverse, peu importe, mais j'ai l'impression que tout ça progresse ensemble, et pas dans le même sens, mais au même rythme, que les hommes se parlent de moins en moins, que les humains se parlent de moins en moins et calculent de plus en plus, et ça a créé de nouveaux métiers qui ont permis d'en supprimer plein d'autres. C'est extraordinaire. Je suis toujours très curieuse de ce que l'homme est capable de faire. Ça a quand même créé des métiers de consultants qui gagnent énormément d'argent pour créer des indicateurs et avoir des critères soi-disant fiables dans lesquels on va essayer de faire rentrer des humains et on supprime des tas d'emplois. C'est pratiqué dans plein d'entreprises. Il y a des consultants qui sont aussi spécialisés dans le fait d'évaluer les gens tout simplement pour faire le tri. Il y a des reportages très intéressants, j'ai plus en tête une série de reportages qui s'appelle « La mise à mort au travail » dans lequel intervient Vincent Golé-Jac. Donc j'apprécie beaucoup les travaux qui parlent de la société malade de la gestion. Et la société malade de la gestion devient malade aussi avec ses calculs concernant l'humain. Et c'est la même logique avec cette notion de contrôle derrière. Voilà, partager ça et... Je suis toujours à mon compte et j'ai été contrôlée par une administration que je ne nommerai pas, qui m'a dit, mais madame, nous ne connaissons pas votre travail, mais nous vous contrôlons. Ok, merci.
Oui, je voulais juste faire une toute petite remarque. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, Laurence, les élèves bons, les élèves mauvais. Moi, je parlerais plutôt de résultats satisfaisants ou insatisfaisants.
Oui. Le problème de l'évaluation à l'école.
Donc, moi, je voulais parler des notes qu'on mettait aux médecins ou aux hôtels, parce que je trouve que c'est plutôt bien, au contraire, qu'il y ait des notes. Alors oui, certes, un médecin a eu son diplôme, mais oui, on peut faire... confiance à des médecins qui donnent un diplôme à un médecin, mais il y a aussi cette notion de performance, entre guillemets, de savoir si, oui, la personne a été qualifiée il y a 20 ans, mais est-ce qu'elle fait toujours bien son métier? Et je pense que ça peut vraiment aider la société aussi d'être évaluée, parce que certes, c'est une contrainte pour la personne qui est évaluée d'être évaluée, mais ça va essayer d'influencer les comportements et de les... normalisé pour que bah il y ait quand même un attendu et qu'il y ait des gens qui respectent cet attendu là, sinon la société elle serait pas très réglementée, on va dire.
Pour répondre au monsieur qui est restaurateur, peut-être un petit peu à la jeune fille aussi, je sais pas si tout le monde est au courant ici que les avis qu'on laisse sur internet sont aussi des données commerciales, c'est-à-dire qu'on peut acheter des avis, on peut s'acheter des avis positifs, on peut acheter des avis négatifs, dans le sens qu'on peut aussi être un concurrent jaloux et aller rameuter toutes ses copains, ses copines pour aller mettre des avis négatifs qui vont aller critiquer l'entreprise du voisin, le restaurant du voisin, le magasin du voisin. Donc, ériger les avis... Alors, j'ose espérer que quand on parle de professionnels de santé, il n'existe pas la même chose. Le principe de l'avis, du fait qu'on laisse... Et il y a même des entreprises dont c'est le but commercial. De publier des avis, de vendre la possibilité d'avoir des avis, d'avoir des abonnés sur Instagram, d'avoir des likes et des vues. Donc il faut aussi remettre à sa place ce genre de pratique.
Pour faire le lien entre certains témoignages, effectivement, dans la vie, on parle de notamment des avis Google ou d'autres systèmes comme TripAdvisor, la plupart du temps, ce qui peut biaiser le résultat global, c'est l'anonymat. Ça, on l'a déjà évoqué sur plein de choses, enfin plein de sujets, notamment ça peut revenir aussi sur des faits divers. Hein. De personnes en tant que telles, et pas d'ailleurs forcément uniquement leur métier, mais même des personnes en tant que telles qui sur Internet sont très mal jugées par des gens qui se cachent derrière leur pseudo et qui émettent des avis négatifs protégés par leur anonymat. Donc je pense que ça, c'est quand même un gros problème, et c'est le cas aussi notamment pour les restaurateurs ou pour d'autres prestataires du même type. Et le problème est aussi que les avis qui s'achètent, ça c'est pas légal, hein, Donc il faut bien quand même aussi différencier ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quand on parle des... Enfin, là, on est loin de la notion d'évaluation avec un but, comment dire, qui est émis et qui est officiel, ou en tout cas qui est dit. Et puis, des évaluations dont l'objectif est effectivement... n'est pas du tout officiel, n'est pas connu et négatif, et du coup avec des pratiques qui ne sont pas légales en fait. Donc juste pour souligner que le mot évaluation au final, dans ce qu'on a pu entendre ce soir, c'est, ça peut être extrêmement varié, mais que ce qui est important, il me semble, c'est d'abord de connaître le vrai but d'une évaluation, que ce soit l'évaluation d'une personne ou dans sa fonction professionnelle par exemple, ou le but de l'évaluation d'un organisme. Et dans tous les cas, il y a cet aspect-là, l'objectif doit être connu, le but doit être connu, et également les critères doivent être cohérents avec les objectifs. Parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, mais moi que j'ai connu dans l'évaluation d'action, notamment d'action publique, c'est que les critères étaient choisis pour aboutir à des évaluations. Donc là encore, ce n'était pas quelque chose d'officiel. Donc, c'est pour ça que, en fait, le sujet, il est immense, ce sujet-là. C'est la seule chose que je peux dire en conclusion.
Alors sur la question, alors plutôt sur le côté des évaluations, on va dire individuelles, et pour rebondir sur la notion d'objectif de l'évaluation, je me pose une question sur qu'est-ce qu'on fait de cette évaluation, pas seulement celui qui a évalué, qui a voulu donner, on va dire, un ordre de grandeur ou de valeur à un certain nombre de critères, mais la personne qui reçoit cette évaluation. Qu'est-ce qu'elle en fait et qu'est-ce qu'elle devrait en faire? Ça fait un peu écho à ce que Sylvain disait sur la double fonction d'information et d'incitation peut-être de l'évaluation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive à ce que cette incitation devienne une sorte d'injonction à changer, on va dire, à progresser, ou en tout cas à changer le résultat de l'évaluation qu'on a reçue? Si je suis évalué sur un certain nombre de critères, est-ce que, du moment que ma performance elle est jugée satisfaisante, est-ce que je dois quand même chercher à l'améliorer? Si un aspect de ma personne qui a été évaluée n'a pas donné satisfaction, est-ce que je dois le changer? Est-ce que je devrais le changer? Est-ce que des fois même je peux le changer? Est-ce que c'est aller contre ma nature? Et en fait, je me pose la question des fois, est-ce que justement je devrais changer simplement parce que j'ai failli à une évaluation, ou est-ce que peut-être par, alors on peut appeler ça de l'amour propre, on peut appeler ça de l'arrogance, on peut appeler ça de l'obstination, mais je refuse de changer même si j'ai été évalué négativement parce que je considère que ma nature n'a pas à dépendre de l'évaluation, d'une évaluation faite par autrui.
On a beaucoup parlé des évaluations qui sont sur un temps très court. On a parlé d'une évaluation, par exemple, on a pris l'exemple des médecins qui est assez bien résumé. Une évaluation dans un temps donné, à une période précise de la vie de quelqu'un, c'est peut-être quelque chose d'assez anodin. Mais est-ce que on parlerait pas aussi de, pendant cette évaluation, si elle est préparée en amont, du stress qu'il peut y avoir et qui peut fausser les résultats dans un sens? Est-ce qu'on se baserait sur toute l'expérience d'une vie, par exemple, d'un médecin de 25 ans, sur l'évaluation qu'il a passée justement il y a 25 ans? Est-ce que si on est là aujourd'hui et si on a autant parlé des évaluations sur Internet, c'est qu'on va les voir malgré tout, même si on les approuve plus ou moins. Ces évaluations, on est quand même amené à aller les voir, même si on est conscient que, encore une fois, ça peut être biaisé, comme on le disait avec les évaluations qui sont faites, payées par l'entreprise. Et on va quand même les voir sur le fait qu'elles ne sont peut-être pas forcément légitimes. et se poser la question d'une évaluation sur un temps donné à une période précise, est-ce qu'elle est assez intéressante? Est-ce qu'on ne devrait pas la réitérer plusieurs fois? Ou à des entreprises qui voient passer des inspecteurs plusieurs fois, peut-être pas par an, mais peut-être une période assez régulière, pour voir si leur, leur production est toujours aussi qualitative. Et c'est ça aussi, enfin, je pense que c'est ce qu'il faudrait retenir, c'est est-ce qu'une évaluation sur un temps peut avoir une aussi bonne estimation de la production, de la qualité de la production d'une entreprise, de quelqu'un, que sur quelque chose qui pourrait être sur un temps, qui s'inscrivait dans un temps plus long, comme une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, un ami qu'on connaît depuis de certaines années.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, et effectivement, on a entendu beaucoup de thèmes abordés, et ça m'a fait penser à ce qu'on a beaucoup posé des questions sur trois plans, en fait, et ce que je voulais un peu réorganiser ma pensée en l'exprimant, c'est-à-dire le plan du moyen, en fait, d'évaluer, le plan de la légitimité de l'évaluation, et puis le plan du but ou de la finalité de l'évaluation. C'est-à-dire que sur le moyen, il y a eu beaucoup de discussions entre qualité et quantité. Est-ce qu'on on a effectivement des évaluations quantitatives? Ça permet un peu de classer plus facilement, ça donne une image de factuel, d'objectivité, mais accompagnée avec de la qualité pour creuser. C'est un peu le thermomètre en fait qui va nous indiquer, ok, il fait 20, il fait 25. Mais est-ce que la météo est bonne pour autant? Il y a du vent, il pleut, c'est un faux chaud, froid, sec, et on va avoir besoin de cette qualité à côté. La légitimité, effectivement, sur l'évaluation dans le monde professoral, du peer-to-peer, pour les conférenciers ou pour les travaux d'études, où on voit qu'il y a plus de légitimité d'être jugé par des pairs que par des gens qui ne connaissent pas le domaine, mais que dans la société actuelle de tout le monde est autant légitime que tout le monde, un peu la démocratie où tout le monde vaut un de la même manière qu'un autre, sans valeur pour les spécialistes. Autant de voix à chaque personne. Et sur le plan de la finalité, je pense qu'il y a différents domaines d'évaluation qui sont pour des aspects ou des choses différentes. Dans le domaine public, l'association, on va évaluer en fait sur la notion de résultat du denier public d'intérêt général, c'est-à-dire est-ce que effectivement l'argent injecté a donné le résultat attendu, à quelle hauteur et pourquoi. Dans les domaines sportifs, la compétition, on va dire, est aussi une forme d'évaluation, ou obtenir ses dan au judo, comme ça a été évoqué. Et dans la scolarité, l'évaluation, c'est une question de progression, d'atteinte d'un niveau à atteindre pour en vue d'obtenir un diplôme qui est la sanction en fait d'un parcours. Et puis dans le monde commercial, la finalité est le processus d'amélioration continue. C'est-à-dire, c'est ce qui était évoqué dans l'ISO 9001, et c'est pour ça que tout ce sujet d'évaluation se déploie à un niveau commercial. C'est de dire la satisfaction du client, on est sur l'écoute, le retour critique, pour dire la société doit se remettre en cause, améliorer son service, améliorer son produit, pour être dans la performance. Donc un peu ces trois domaines d'évaluation qui sont l'intérêt, le résultat public, l'atteinte d'un niveau à atteindre pour obtenir la sanction d'un diplôme ou de quelque chose, ou la critique pour l'amélioration continue. Voilà, et juste pour terminer, j'avais un dernier propos, et avec les coupures, ça m'échappe, c'est pas grave.
En tout cas, c'est une bonne synthèse. Oui.
Bonsoir. Donc déjà, merci. C'est super. Oui. J'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Ça va être un petit peu.
quelques points sur lesquels je voulais revenir et d'autres qui n'ont peut-être pas été abordés. Donc déjà sur dans le cadre scolaire, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une critique de notre personne, enfin personnellement. On va plus avoir besoin de voir ça comme clairement un miroir. L'enseignant est là pour nous aider à progresser, pour nous emmener vers le haut. Il n'y a pas de critique, enfin je veux dire, à prendre sur point personnel. On va plus chercher à prendre l'enseignant, s'appuyer sur lui quelque part. Son but c'est de nous emmener, pas de problème. Donc moi je vois par rapport notamment dans le cadre des arts martiaux qui a déjà été évoqué, on a cette notion donc de sensei, on va venir s'appuyer sur lui, lui a été validé par d'autres sensei, etc. Il va être là pour nous transmettre quelque chose. Donc la note, la notation dans le système scolaire, elle est là vraiment pour nous donner une image à l'instant T. Il faut la prendre comme une aide, on n'est pas là pour... C'est pas... Ensuite, Et même je trouve... l'auto-évaluation, donc on a abordé, je trouve que c'est très prétentieux de pouvoir se dire je suis capable de m'auto-évaluer. Je pense notamment dans le terme des arts martiaux, me mettre sur un pied d'égalité avec un grand sensei qui a été, qui est par exemple une 9e dan, je sais pas, c'est extrêmement prétentieux, je veux dire, c'est lui qui est là pour m'apprendre, je peux pas me dire moi-même, là j'ai mes faiblesses, mes forces ici. Voilà. Donc il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi, j'accepte, elles sont là pour m'aider. Et on... deux points que j'aurais aimé aborder, c'est sur le score en entreprise. Je sais qu'il y a le score ESG qui a été mis en place il y a un petit moment, donc qui permet d'avoir des fonds d'investissement, donc qui permet d'avoir des crédits pour les entreprises. Et là, je trouvais que c'était un petit peu particulier, ce cas-là particulièrement, parce que là, c'est carrément un score qu'on est obligé de respecter pour avoir donc, accès à ces crédits, et ces scores, ces points, sont fixés arbitrairement par un bureau d'élite. Donc là, je trouve que c'est vraiment un gros problème. On peut notamment noter le fonds d'investissement BlackRock qui a des sommes absolument démentielles. Et dans tous les cas, si jamais on n'est pas ami avec eux, notre boîte va couler. Donc là, je pense que ça pose un gros problème. Et ensuite, un autre point qui n'a pas été abordé, je trouve assez important, dessus la notion purement de score personnel, juste le crédit social chinois, en fait, qui n'a pas du tout été évoqué pendant la soirée. Et je pense que là, c'est une grosse, grosse dérive quand même. Parce que là, on va directement venir noter la personne purement sur ses fondements et sur toutes ses manières d'être. Voilà, ça peut être dans ses manières de consommer, etc., ses avis politiques, etc. Et là, ce score nous suit partout et ensuite, ça va nous impacter sur toute notre liberté personnelle, dessus les achats qu'on va pouvoir faire, les voyages même qu'on peut faire vont être conditionnés par notre score. Donc voir justement comment est-ce que la politique chinoise a amené jusqu'à cette mise en place de ce score-là et comment ça peut potentiellement se généraliser à une échelle plus globale et comment ça pourrait débarquer chez nous potentiellement.
Merci. Moi je suis souvent surprise quand je vais au restaurant avec des personnes. Quand elles n'apprécient pas ou moyennement leur plat, elles ne le disent pas au serveur. On a la question, monsieur, dame, tout s'est bien passé? Oui, oui, ça a été. Et on ne le dit pas. Alors qu'en fait, je pense que c'est ça qui, on critique, c'est ça qui fait avancer. C'est pas le oui, oui, tout ça s'est bien passé, c'est vraiment qu'est-ce qui a amélioré. Tout en étant conscient que c'est un avis complètement subjectif. Et là, c'est une manière de mêler le qualitatif et le quantitatif. C'est de demander une note, mais peu importe quelle note, mais qu'est-ce qui vous aurait fait mettre 10 sur 10, en fait. Et c'est là cette réponse qualitative qui va nous faire avancer. Et donc, mon observation, c'est de dire, peut-être qu'on pourrait continuer à rendre public le positif. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette prestation? Moi, le peu d'avis Google que j'ai mis, c'est toujours pour partager une émotion que j'avais eue et que j'avais envie de partager comme un ami, etc., une bonne recommandation. Mais par contre, de rester anonyme, comme disait madame, pour les critiques constructives, parce qu'effectivement, je pense que c'est le fait qu'elles soient publiques qui fait qu'elles soient aussi si virulentes.
Juste un petit mot, parce que ce qui vient d'être dit, ça rejoint un peu ce que je pensais tout à l'heure quand je parlais d'estime et de nuance. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure donc des notes qu'on peut mettre sur Google, et je pense qu'on pourrait passer une autre soirée en parlant des commentaires qu'on peut mettre, et c'est ce qui manque, c'est ce qui va nuancer la note, c'est ce qui va donner un sens à la note, enfin je parle du point de vue d'un élève. Quoi.
C'est ce qui nous donne une marge de progression, des progrès que l'on peut encore faire, ou de ceux qui n'ont pas été faits,
et donc une sorte d'effet reflet miroir qui nous renvoie à nous-mêmes et à la situation, et puis c'est ce qu'on est prêt à faire pour atteindre le niveau attendu, ou ce qu'on refuse de faire justement parce qu'on ne s'en sent pas capable.
Ben, si vous en avez terminé, il est temps de conclure. Alors, moi, il y a quand même une question qui me taraude, c'est que les évaluations dont on a parlé ce soir, la grande majorité des évaluations dont on a parlé ce soir, elles n'ont pas toujours existé. Voilà. C'est quand même relativement récent dans nos sociétés. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui les a fait naître ? Alors, c'est vrai que l'évaluation, on en a l'habitude, parce que nous avons tous été, encore une fois, élèves. Et je crois qu'il est vraiment bon de revenir sur le sens de l'évaluation, de la notation à l'école. Et comme on l'a dit, le sens de l'évaluation ou de la notation, c'est de permettre aux élèves, aux apprenants, de pouvoir se situer dans leur apprentissage et à l'enseignant de voir le travail qu'il a encore à effectuer pour amener l'élève là où il doit l'amener. Et ça m'intéresse, là où on doit amener un élève. Vraiment. Est-ce qu'on doit amener un élève à un diplôme ? J'ai envie de dire en théorie oui, mais un travail d'enseignant, quelle que soit la matière, c'est beaucoup plus que ça. Que ce soit un enseignant de philosophie, un professeur de judo, un enseignant d'espagnol ou autre, c'est beaucoup plus que ça. On a pour tâche d'amener des enfants, des mineurs à devenir majeurs. C'est-à-dire on a pour tâche de former un individu à son humanité. Et l'évaluation finale, elle est là. Voilà. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est ça. L'éducation, elle a pour vocation de former des humains, des êtres dignes d'être humains et des citoyens aptes à pouvoir être citoyens et à faire évoluer la société. Et une fois que ça s'est atteint, l'évaluation, elle est terminée, quoi. Donc l'évaluation, elle doit s'inscrire dans un rapport qui se met en place entre, j'aimais beaucoup cette expression antique, entre le maître et le disciple. Et le maître et le disciple, c'est celui qui n'est pas encore formé mais qui est en cours de formation, et celui qui a reçu une formation et qui a informé. C'est, vous avez utilisé le terme, c'est transmettre. C'est transmettre ce qui relève de l'humain, de l'humanité, et c'est faire que les choses perdurent dans le temps. C'est permettre à l'humanité de faire civilisation, il me semble. Voilà. Et une fois que ça s'est terminé, des rapports d'égalité se mettent en place entre les citoyens que nous sommes. Du coup, si on vit dans une société qui est une société qui valorise tellement l'évaluation, quelle est la valeur que notre société accorde à l'évaluation, il me semble bon de s'interroger un tant soit peu sur la société dans laquelle nous vivons. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Et il est vrai que l'évaluation, elle est nécessaire à nos systèmes, elle est nécessaire pour aller vérifier la qualité des gens, ouais. La qualité de leur travail. Elle est nécessaire pour assurer les rôles de production. En d'autres termes, on a posé le terme, l'évaluation est nécessaire dans des sociétés qui prônent quand même la compétitivité. Il faut être efficace, il faut être bon, il faut être toujours efficace, il faut être toujours bon, il faut être rentable. Et les premiers audits, moi, dont j'ai entendu parler, on parlait d'audit, on vient auditer, voilà. C'était des audits de qualité. Voilà. Et on venait dans les entreprises, donc l'audit de qualité qui en fait n'avait que pour fonction
de vérifier si les secteurs étaient bien organisés, si effectivement il n'y avait pas trop de monde pour faire le travail qu'on demandait, si effectivement on pourrait faire le même travail avec moins de personnel, si effectivement tout le monde faisait bien tous les jours son travail. Enfin, il y a quand même, là, on a parlé d'humilité, on a parlé de respecter le fait qu'il y avait un droit à l'erreur. Ben, oui, oui, la sympathie au travail. Mais moi, tous les jours, je ne suis pas sympathique. Hein. Enfin, vous, je ne sais pas. Mais moi, quand mon mari me dit un mot qui me met mal à l'aise ou qui m'agace quand je m'en vais, quand j'arrive au lycée, je suis plutôt une teigne que quelqu'un de très sympathique. Donc, effectivement, le problème de l'évaluation, si on m'évalue ce jour-là sur ma sympathie, eh ben, ça peut être bon. Et je crois que c'est quand même le propre de l'humain. Nous ne sommes pas dans une rectitude d'être. Voilà, c'est pas vrai ça. Et les systèmes dans lesquels nous évoluons, dans quel type de société voulons-nous vivre ? Alors, que l'évaluation soit nécessaire, oui. Au bout de 20 ans, je sois toujours capable de faire mon travail. Je trouve ça intéressant parce que si j'étais grecque, je dirais, mais méfiez-vous des jeunes. Hein. Celui qui vient d'avoir son diplôme, il a opéré une fois ou deux. Hein. Celui qui a 20 ans de métier, il en est à sa 150e opération. L'expérience fait que logiquement, celui qui est plus âgé sait mieux que celui qui ne l'est pas. Or, on est dans une société où on ne raisonne plus comme ça. C'est-à-dire, effectivement, au bout de 20 ans, vous n'êtes pas dans la routine. Il ne faut pas vérifier vos qualités ou autres, il ne faut pas vérifier vos compétences. Tout est pensé en termes de compétences. Est-ce qu'il serait tellement absurde de dire que sur une société de la compétition, qui fait qu'on est bon que si on est mis en concurrence avec les autres, on est bon que s'il y a comparaison constante de moi avec les autres, avec un regard au final qu'on ne sait même plus où positionner, parce que tout le monde juge tout le monde. Alors si les Français jugent mal, c'est peut-être parce qu'ils se disent, ben, si je mets 8, on va me mettre 8. Je ne mets pas 10 parce que justement, on a un petit peu d'humilité quand même. Il y a toujours une marge de progression possible. Mais surtout, ça revient à quoi ? Que tout le monde évalue tout le monde, en sachant absolument pas quelle est la légitimité des gens pour s'entre-évaluer. Donc oui, on ne parle plus, on ne communique plus, on se note. Surtout ne plus être qui on est. Alors ça surtout, parce que si jamais je suis qui je suis, je vais avoir une mauvaise note. Je vais être mal évalué. Donc tout se lisse. On vit dans une société où tout d'un coup, il n'y a plus d'aspérité. Mais s'il n'y a plus d'aspérité, il n'y a peut-être plus d'authenticité non plus. C'est un terme qu'on n'a pas prononcé. Elle est où l'authenticité ? Elle est où le plaisir que j'ai à aller voir mon restaurateur ? C'est peut-être un échange humain, parce que si je vais dans ce restaurant, c'est peut-être pas parce qu'il a une bonne note, mais c'est parce que moi, j'aime bien y aller, c'est à côté de chez moi, je suis bien accueillie. Voilà. Bah, des fois, la pizza, elle est grillée, hein, un petit peu cramée. Bah, et alors, dire quand je fais la cuisine chez moi, vous, je sais pas, mais moi, des fois, c'est pas top. Hein. Si je vais au restaurant, c'est pour sortir, c'est pour voir du monde, c'est pour partager quelque chose. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a besoin de noter tout ça ? Voilà. Ensuite, sur des structures de groupe, c'est peut-être différent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas opposer compétition et coopération ? Que les systèmes nécessitent de se raisonner, qu'ils nécessitent de ce que j'appellerais quand même l'auto-évaluation. On en est où ? Est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'il est possible de faire mieux ? Effectivement, l'intelligence collective est toujours plus intelligente que l'intelligence individuelle. Mais est-ce que c'est tellement absurde de penser qu'il puisse y avoir des concertations communes avec des plans de décision communs où on voit les qualités, où on voit les défauts, mais où ça ne porte pas à conséquence sur notre devenir ou notre être ou notre réputation ? Pourquoi une évaluation devrait justifier des logiques de prime. Voilà. Je vais parler à quelqu'un, à mon supérieur hiérarchique. Si jamais il commence à me dire des choses négatives, je sais que ma promotion, c'est foutu. Mais là encore, le discours, oser dire quelles sont nos faiblesses, oser dire quelles sont peut-être nos forces aussi, oser dire de quoi on a besoin, cette libération de la parole, est-ce qu'elle nécessite de se faire dans le cadre d'une notation? Est-ce que l'évaluation doit avoir effectivement les objectifs qu'on lui donne? J'en suis pas convaincue. Et j'aimerais juste terminer en disant que toute cette réflexion, moi, me renvoie constamment, m'a renvoyé constamment à Maria Montessori, où effectivement, dans les écoles, et je me dis, mais c'est un modèle de société aussi, est-ce qu'on travaille parce qu'on est motivé par la note? On travaille parce qu'on est curieux, on travaille parce qu'on aime. Est-ce qu'il y a des rythmes à respecter? Si vous ne faites pas telle tâche en 3 secondes, vous n'êtes pas bon. Voilà. Ben non, il y a des enfants qui vont le faire en 10 minutes, il y en a qui vont le faire en 1 minute, il y en a qui sont plus lents dans leur exercice de lecture, il y en a qui sont plus rapides. Mais que disait Maria Montessori? Elle disait l'essentiel, c'est de voir ce vers quoi on tend, les objectifs, et puis de laisser le temps pour que chacun puisse atteindre les objectifs à son rythme, à sa manière, avec les intérêts qui peuvent être les siens, au moment où ce sont les siens. Au moment, le tout étant que l'enfant parvienne à passer par tous les types d'apprentissage. Mais du coup, ce qui est au centre là, ce ne sont pas les compétences, c'est l'être d'un individu. C'est permettre à un individu de devenir lui-même dans le temps dont il a besoin, et surtout avec le plaisir de devenir l'être qu'il est. Moi, ce que je déplore dans l'éducation nationale à l'heure actuelle, c'est pas qu'on continue à évaluer, c'est que la note, elle devient à ce point une pression qu'il y a presque plus de plaisir à apprendre. Si l'école n'est pas un lieu de plaisir, de jouissance intellectuelle, de prise de risque, là j'ai pris un risque, j'ai eu 4, mais ça m'a fait plaisir ce que j'ai rédigé, complètement à côté du sujet, mais je l'ai fait. S'il n'y a plus ça au sein de l'école, c'est-à-dire cette protection qui amène chacun à pouvoir vraiment se choisir dans l'être qu'on est, ben je crois qu'on n'y arrivera pas. Et effectivement, l'école, ce n'est pas le lieu de la compétition. C'est le lieu d'une évaluation, mais pas d'une compétition, pas d'une mise en concurrence. Voilà. Et ce n'est pas la pré-entrée dans un monde capitaliste. Hein. On ne forme pas les travailleurs de demain. Hein. On forme les citoyens de demain. Et au sein d'une entreprise, je trouve que c'est exactement la même chose. Une entreprise, pour moi, elle ne fonctionne non pas parce qu'elle a de bons travailleurs, mais parce qu'elle a des travailleurs qui sont aussi des citoyens, capables d'initiative, capables de dire, capables d'entreprendre, capables, très important, de s'opposer, de dire on se trompe, on ne prend pas la bonne direction, je pense qu'on ne la prend pas parce que. Voilà, c'est-à-dire une sphère de liberté. J'espère qu'on est très mal noté par les Américains. J'espère qu'on note très mal, parce que je crois qu'on note avec beaucoup de bienveillance. Je l'espère vraiment. Voilà. Notez-moi. Et donc, nous avons la convivialité, le plaisir de se retrouver entre nous avec... le bar qui va s'ouvrir, Marie-France, c'est ça?
Et un petit coup de main pour les chaises.
Et merci, un petit coup de main pour les chaises, merci.
C'est parfait.
On me dit qu'il faut les empiler par 10.